Et bonsoir, c'est Yop du label Les Antipodes. Saviez-vous que Vanille venait d'ouvrir une boutique pour son podcast ? Il y a des t-shirts super stylax que vous pourrez arborer fièrement dans la rue. Il paraît même qu'en achetant deux t-shirts, vous favorisez le retour de l'être aimé. Vous n'avez plus aucune excuse, le lien est dans la description. Et maintenant, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormales et mystères en tout genre. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale et je suis trop contente, vous la connaissez peut-être déjà, c'est Billy. Vous l'avez sûrement vu passer sur Instagram ou sur TikTok. Je l'ai découverte avec son contenu où elle raconte toutes les choses étranges qui existaient à l'époque victorienne, mais pas que. Et justement, je l'ai invitée pour cet épisode pour vous raconter ensemble quelques pratiques cheloues et creepy du passé. Salut Billy, comment tu vas ?
Salut, merci de l'invitation, je vais très très bien, et toi ?
Bah ça va, ça va. Bah écoute, j'ai trop hâte de faire cet épisode avec toi. Ça fait 20 fois que je te l'ai dit là depuis le début.
Mais c'est trop bien.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais avant, je voudrais quand même te poser quelques petites questions sur toi et ce que tu fais, bah pour te présenter en fait à mes auditeurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Eh bien, bonjour déjà aux auditeurs. Bonjour, bonjour. Moi, je m'appelle Billy et je suis ce qu'on peut appeler une créatrice de contenu dans l'univers de l'histoire et plus spécialisée durant l'époque victorienne. Voilà, donc j'ai commencé en fait sur TikTok pendant le confinement.
Ah ouais.
Un peu comme beaucoup de gens, je pense.
Ouais.
Tu vois. Et je m'ennuyais. Et puis un jour, j'ai parlé, je crois que c'était ma première vidéo, il me semble. Bah, c'était les photographies post-mortem, tu vois, justement. Première petite vidéo TikTok.
Ah bah, comme par hasard.
Ouais, j'avais parlé de ça et ça avait plu. Et du coup, j'ai continué, je crois, avec Jack l'Éventreur, un truc comme ça. Ça avait plu aussi. Et puis voilà, maintenant, je suis un peu... Je me suis spécialisée là-dedans, mais je ne suis pas spécialiste. Je tiens à le dire, je ne suis pas historienne. Donc, ça m'arrive de faire des erreurs. J'en ai fait sur TikTok des erreurs. Et donc, voilà. Voilà un petit peu pour le moment ce que je fais. Je compte potentiellement reprendre une chaîne YouTube parce que moi, j'avais commencé sur YouTube vraiment la création de contenu il y a longtemps. Tu vois, vraiment, il y a un bon moment. Ouais. Et voilà, continuer un petit peu tout ça dans ma lancée et voir où est-ce que ça me mène.
Trop, trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser spécifiquement à l'époque victorienne ?
Alors, je pense vraiment en y réfléchissant que ça remonte à mon enfance. Moi, de base, en fait, j'ai un diplôme de libraire et j'ai toujours voulu travailler, en fait, dans une librairie, tu vois, ce genre de choses.
Ouais.
Et je lis vraiment depuis aussi loin que je m'en souviens, tu vois, vraiment. Et moi, j'ai toujours été, tu sais, très attirée par les histoires de fantômes, etc. Et souvent, les histoires de fantômes, un petit peu dans la culture populaire, c'est tout le temps, tu sais, dans des manoirs victoriens du 19e siècle avec des fantômes, etc. Et puis, après, j'ai découvert, eh bien, les films de Tim Burton. Et donc, plus particulièrement, Les Noces Funèbres, qui est, du coup, un film d'animation qui se passe, en fait, pendant l'époque victorienne. Et qui d'ailleurs est tiré d'une légende russe, si je dis pas de bêtises, qui a été inspirée, je crois, un truc comme ça. Et en fait, j'ai adoré. Enfin, vraiment, Tim Burton, ça a été vraiment, tu sais, le déclencheur de tout ça, vraiment, de tout l'univers un peu spooky, tu vois, mais sans que ça fasse vraiment peur, tu sais. Et puis, en grandissant, j'ai vraiment mis ça de côté, tu sais, après tu travailles, etc. J'ai dû rentrer dans le moule, tu sais, de la société, etc. Et puis, il y a quelques années, je ne sais pas quand est-ce que c'était, il y a peut-être 3-4 ans, j'ai découvert Penny Dreadful. Et là, ah là là, là, je suis retournée à fond dans l'époque victorienne, à savoir que Eva Green, en plus, c'est mon actrice préférée. Et vraiment, Penny Dreadful, en fait, ça m'a redonné, tu sais, genre le goût d'apprendre un petit peu ce que c'était déjà de base les Penny Dreadful. Et du coup, vu que la série est basée sur des personnages littéraires, en fait, du coup, de l'univers gothique du 19e siècle, dans la littérature anglaise, ben, en fait, c'est ça, vraiment, ça m'a relancé là-dedans. Et depuis, je n'ai plus quitté cet univers.
Ah bah, tu m'étonnes. Je l'ai pas vu, la série. Enfin, si, j'ai vu un épisode, je crois, mais j'avais pas continué. Je sais plus pourquoi, mais ça date un peu. Faudrait que je la regarde. J'ai pensé il y a pas longtemps qu'il faudrait que je la regarde. Écoute, trop cool. et du coup, aujourd'hui, on va justement parler de l'aspect creepy de l'époque victorienne avec deux sujets super intéressants. J'espère que vous allez apprendre plein de trucs avec cet épisode, même si, on répète, on n'est pas des expertes. Je n'en dis pas plus. C'est Billy qui va commencer. Petite musique creepy, c'est parti, let's go.
Donc, alors moi aujourd'hui, je vais vite fait, parler des photographies post-mortem et plus particulièrement de démystifier un petit peu tout ça. Parce qu'en fait, sur Internet, on a appris beaucoup de bullshit par rapport à ça. Et donc, je vais débunker 2-3 petits mythes par rapport à ça. Alors déjà, les photographies post-mortem, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y en a qui peuvent effectivement ne pas trop savoir. C'est une pratique courante qui a été extrêmement popularisée en fait durant la moitié du 19e siècle en Angleterre. Et c'est le fait de prendre des défunts en photo. À savoir, petite anecdote, que aujourd'hui ça continue. On continue toujours de pratiquer la photographie post-mortem.
Ah ouais ?
Il y a, je sais plus dans quel pays c'est, je crois que c'est le Mexique qui le pratique encore aujourd'hui. Et je me rappelle qu'il y a certaines personnes en fait dans les commentaires, notamment sur TikTok, quand j'avais refait en fait ces vidéos-là, qui m'avaient dit, tu sais, moi j'habite au Mexique, je crois vraiment que c'est le Mexique, ouais. J'habite au Mexique et on pratique toujours ce rite funéraire entre guillemets. Je pense qu'on peut appeler ça un rite funéraire. Donc voilà, à savoir que ça continue de se pratiquer aujourd'hui, mais pas du tout dans les mêmes conditions qu'à l'époque, bien entendu.
Ouais, c'est intéressant. Okay.
Alors, les photographies post-mortem, si c'est devenu creepy, c'est en particulier pour une raison. C'est qu'en fait, il y a un mythe qui dit que les photographes prenaient les défunts en fait en photo debout ou assis, avec les yeux ouverts, ce qui donnait vraiment cet aspect, tu sais, genre hyper effrayant quand tu regardes une photo et tu te dis, mais il est mort ou il est vivant? Eh bien, en fait, tout ça, c'est faux. Alors, ça reste quand même une pratique assez spéciale, bien entendu, parce que, voilà, photographier un défunt, c'est pas quelque chose qui est très courant, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas non plus quelque chose qui se faisait à tous les coins de rue, tu vois. Mais ça reste quand même, voilà, du coup, quand même assez spécial, parce qu'il faut être confronté à la mort. Après, oui, les Victoriens, ils étaient très à cheval, en fait, justement, sur ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la mode du deuil. En fait, oui. C'est vraiment des étapes qui sont très calculées, tu vois, genre pendant un an, la veuve doit porter ça, ceci, cela, quoi.
Parce qu'ils étaient beaucoup plus confrontés à la mort, je pense, que nous, à cette époque, avec toutes les maladies et tout.
Alors, il y avait... Ouais, si, c'était énormément les maladies et, en fait, énormément les enfants qui décédaient aussi.
Oui.
Dû à... plein de facteurs, hein. Il y a tout ce qui est maladie aussi, enfin bien sûr je pense que c'est le facteur principal, il y a aussi tout ce qui est la pauvreté, parce qu'on pense à l'époque victorienne, on se dit c'est une période riche, tu sais, genre tout le monde était heureux, voilà, mais en fait non, c'est faux, enfin ce qu'on voit dans les films, dans les séries ou même sur Pinterest, ça doit être 1% de la population, tu vois, londonienne, voire même 0,5%, parce que du coup il y avait tellement de travailleurs, etc. Donc du coup, malheureusement, il y avait beaucoup de familles qui étaient très pauvres et du coup, les enfants décédaient, tu vois, malheureusement, de maladie, de malnutrition, de pauvreté aussi. Donc voilà, mais ça c'est un autre sujet, mais du coup on photographiait effectivement beaucoup les enfants. Et ça c'était pour n'importe quelle classe sociale, parce qu'il y a un premier mythe qui dit que la photographie funéraire en fait était extrêmement chère. Sauf que c'est pas si vrai que ça. En fait, les photos, elles étaient pas si chères, puisque du coup, les familles moyennes, en fait, pouvaient totalement prendre des photos des défunts, tu vois. Et la photographie, quand elle a été créée, tu vois, justement, le but, c'était que ça soit exploité le plus possible pour que les photographes, en fait, puissent vivre de leur passion, entre guillemets, si je puis dire ça oui, comme oui. ça, tu vois. Donc voilà, il y a ce premier mythe qui dit que les photos, c'était extrêmement cher, c'était juste les riches qui pouvaient se procurer ça, mais en fait, non, c'est complètement faux, parce que quand tu regardes les photos funéraires, en fait, il n'y a pas, tu sais, genre, que des enfants qui sont habillés avec des couronnes de fleurs, surtout dans des maisons extrêmement riches, non, tu vois des photos très...
comment dire, il n'y a pas que des bourgeois.
Ouais, voilà, c'est ça, il n'y a pas que des bourgeois. Donc il y a un mythe aussi qui dit que il y avait beaucoup de photos post-mortem, sauf qu'en fait là encore c'est faux, puisqu'on va, je vais arriver à ça, c'est que eh bien sur je pense 10 photographies funéraires, il doit y en avoir une qui est vraie.
Ok.
Et ça c'est à cause d'Internet. Tout simplement. Et aussi pour des... Enfin, en fait, moi, c'est vrai que quand j'en ai parlé, par exemple, sur TikTok, je me suis fait lyncher dans les commentaires, parce que les gens disaient « Ouais, c'est faux ce que tu dis. La BBC, ils ont dit que cette photo-là, c'était une photo post-mortem. » Sauf que non, en fait, ça a tout simplement été relié. Tu sais, c'était un peu le téléphone arabe, tu vois. Et sauf que non. Et par exemple, sur une photographie post-mortem réalisée, il y avait 200 portraits de vivants qui étaient faits, tu vois. Donc, il n'y avait pas autant de photographies funéraires qu'on le pense à l'époque.
Ça, c'était pas automatique.
Non, c'était pas automatique, puisque justement, quand la photographie est arrivée, les gens ont voulu bien sûr prendre les vivants d'abord en photo.
Tant qu'à faire.
Ce qui est quand même un peu plus important. Tu vois, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de photographies funéraires d'enfants. C'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas le temps. Tu vois, de prendre, entre guillemets, la photo d'un enfant, parce qu'ils pensaient, enfin voilà, tu sais, ils font leur vie et tout. Et quand ils décèdent, en fait, ils se disent, mince, purée, en fait, on n'a pas profité, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu sais, c'est des mécanismes ouais. un peu normaux, tu vois. Tout le monde ne va pas réfléchir surtout à la création de la photographie. Donc, au milieu du 19e, c'est pas quelque chose qui était très courant non plus. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de portraits d'enfants. Et très peu de portraits d'adultes, parce que justement, ils ont plus le temps de se faire prendre en photo dans des studios, etc. Donc voilà, un petit peu pour ça. Donc oui, les photographies post-mortem, ça a bien existé, mais les photographies post-mortem où la personne est debout ou assise et elle te regarde, tu sais, un peu en mode « elle va avaler ton âme », ça, c'est du fake pur et dur. Tout simplement parce que... un défunt, on peut pas le faire poser debout, voire même assis. C'est pas possible. En fait, biologiquement parlant, ce n'est pas possible avec le, comment on appelle ça? La rigidité cadavérique et tout, c'est beaucoup trop compliqué de le mettre debout. En fait, s'il se met debout, par exemple, il faut qu'il y ait une personne de chaque côté qui le tienne. Sauf que, tu sais, il sera toujours un peu, ballon, tu sais, il aura les bras comme ça, tu sais, qui tombe, la tête ouais. qui tombe et tout, parce que du coup, la personne est décédée. Donc, je sais pas si je peux t'envoyer des photos comme ça, si je pense que je vais t'envoyer des photos.
Oui, oui, vas-y. Pour ceux qui écoutent le podcast, je vous invite à aller cliquer dans la description sur le lien qui mène à mon site et pour voir toutes les photos dont on parle au fur et à mesure. Normalement, ça devrait pas quitter l'épisode et vous pourrez écouter et voir en même temps.
Vraiment, il y a de fausses photos post-mortem. Tu vois, quand tu cliques photographie post-mortem, ne serait-ce que sur Google, la première photo que tu vois, en fait, je vais te l'envoyer, c'est pas une photo post-mortem du tout. Donc là, la première photo, donc c'est vraiment la photo qu'on voit dès qu'on tape photographie post-mortem. Et c'est un peu... Je ne veux pas dire à cause de cette photo-là, mais en partie à cause de ce genre de photo. où en fait tu vois donc les deux jeunes sœurs, elles sont assez jeunes, hein, je crois qu'elles ont 14 ans, 13-14 ans il me semble, quand je m'étais renseignée j'avais vu ça, 14 ans, et en fait celle qui est en noir, du coup qui est debout, les gens pensaient que c'était une photographie post-mortem. Pourquoi ? Parce que quand tu regardes au niveau des mains, eh bien, en fait les mains sont noires par rapport au visage, tu vois.
Ouais, ouais, elles sont plus foncées. Ouais.
Elles sont plus foncées. Et ben en fait, ça, c'est tout simplement dû au flash à l'époque qui était mal géré, tu vois. Et ce qui faisait okay. que ben, souvent, en fait, t'avais les membres de ces personnes-là qui étaient, et les cernes aussi, qui étaient souvent, tu sais, ben, foncées comme ça.
Ouais, ouais.
Donc, une photographie post-mortem où vous voyez, donc là, je m'adresse à vous, chers auditeurs. Une photographie post-mortem que vous voyez avec un défunt debout, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, comme je le disais, du coup, parce que biologiquement parlant, on ne peut pas faire tenir un défunt debout de cette manière-là. Ce n'est pas possible. Il y a aussi quelque chose qui sortait souvent sur Internet où on disait que... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça exactement, il faut que je retrouve le terme. Voilà, un stand de pose. En fait, on expliquait que pour faire tenir un défunt, on mettait un stand de pose. Donc c'est je sais pas comment appeler ça,
une espèce de pied, ouais, un voilà, trépied quoi, pour poser ton défunt dessus quoi.
Oui voilà, c'est ça, c'est un trépied, je cherche le terme, c'est exactement ça. Donc c'est un trépied en fait qu'on posait soi-disant sur les défunts, voilà, j'ai une illustration, je vais te l'envoyer, sur les défunts pour pouvoir le faire tenir et tout. Sauf qu'en fait ce genre de trépied, c'est physiquement impossible de faire tenir un défunt dessus, tout simplement parce que le poids est beaucoup trop lourd. Ce n'est pas possible, en fait. Et il y a une vidéo, je recommande très souvent cette vidéo-là. Alors, elle s'appelait The Mortician sur YouTube. J'ai plus son nom exactement, il faut que je le retrouve. Qui, elle, en fait, est, travaille dans l'univers funéraire. Et elle a fait une vidéo, justement, explicative de ça,
okay.
en expliquant pourquoi, en fait, biologiquement parlant et scientifiquement parlant, ce n'est pas possible de faire tenir un défunt.
Ok. Ouais, parce qu'en plus, sur les photos, c'est pas genre, ouais, je prends une photo avec mon défunt, mais où tu vois qu'il est mort. C'est je prends une photo avec mon défunt et je fais genre qu'il est toujours en vie, quoi. Comme s'il était toujours là.
C'est ça.
Ils ont
exactement.
Les yeux verts, ils sont habillés. Enfin. C'est vrai que quand exactement. On se dit photo de défunt, on peut se dire oh, c'est une photo avec le cadavre à côté, enfin je sais pas, le cercueil ou je ne sais pas quoi. Mais non, là c'est des mises en scène où ils sont debout, habillés, les yeux grands ouverts, ils donnent la main, enfin voilà quoi.
C'est ça, exactement. Et sauf qu'en fait, biologiquement parlant, on ne peut pas faire en sorte en fait qu'un mort paraisse vivant. Ce n'est pas possible. Mais du coup, bon, très intéressant parce qu'elle, vraiment, c'est une professionnelle de... Vraiment. Alors, je crois que c'est une thanatopractrice, si je ne dis pas de bêtises.
Okay. Ouais.
Donc, elle, vraiment, voilà, elle explique que ce n'est pas possible. Et oui, quand on y réfléchit, on se dit, je ne veux pas dire faire le test, tu vois, parce que tu ne peux pas. Mais tu prends quelqu'un, voilà, qui fait semblant de dormir. Enfin, vraiment, tu sais, qui est... Vraiment, tu lui dis de se détendre et tout. Tu lui dis de s'asseoir sur une chaise. Mais bon, il est vivant, donc du coup, il va paraître un petit peu rigide, tu vois, parce qu'il est vivant. Donc, biologiquement, il tient toujours quand même sur la chaise, etc. Mais un défunt, ce n'est vraiment physiquement, ce n'est pas possible. Okay. Et ça, en fait, ça a été débunké pendant très, très, très longtemps. Ça a été débunké, tu vois, à tort et à travers, tout le monde en parle et tout, mais il y a toujours ce truc de... oui, mais le BBC, ils en ont parlé. Il y a d'autres noms. J'ai plus le nom, tu sais, de grosses chaînes comme ça, tu sais, de gros journaux anglais ou américains, tu sais, qui en parlent. Et en fait, ben, vu que ce sont des journaux, tu sais, qui parlent de l'actualité. Enfin voilà, la BBC. Quand tu parles de la BBC, tu te dis, bon, c'est quand même des professionnels, tu vois.
Oui.
BBC, c'est voilà. C'est, sauf que. En fait, ils sont aussi tombés dans le panneau, tu vois. Si on voit un enfant qui est assis, par exemple, sur les jambes de sa mère et qui a les yeux ouverts, ce n'est pas parce qu'il paraît immobile qu'il est mort. Ouais. C'est juste parce qu'il est immobile. Voilà, il est vivant, il fait sa vie avec sa maman. Aussi, on disait que... comment on appelle ça ? On dessinait des yeux, en fait, sur les enfants pour qu'ils paraissent vivants, etc. Sur une photographie post-mortem et tout. Ça, en fait, c'est pas vrai, entre guillemets, non plus. Tout simplement parce qu'une photographie post-mortem, on la modifiait pas. Tu vois, c'est vraiment... elle était telle qu'elle est, tu vois. Après, ça pouvait arriver, voilà, que certains photographes... face ça, en fait, tout simplement pour de la mise en scène. Et pour... Voilà, j'ai retrouvé une photo, là. Donc, cette photo-là, où tu vois, en fait, les yeux qui ont été grattés un petit peu sur, sur la photo.
Ouais.
En fait, je sais pas vraiment pourquoi il disait, en fait, que oui, voilà, c'est une photographie post-mortem parce que la personne, elle était debout, elle paraissait un peu, tu sais, immobile. Et puis, on avait creusé un petit peu ses yeux, tu vois, après la photo, pour donner un air de vivant. Sauf que nous, en fait, c'est juste le photographe qui s'est éclaté. Il s'est dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Voilà. Après, il y a énormément de sensationnalisme aussi. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur Internet, on a vraiment ce truc de la photographie post-mortem. C'est des gens qui sont debout. Ils veulent paraître vivants, etc. En fait, c'est énormément de sensationnalisme. Sauf qu'en fait, les Victoriens, on a toujours tendance à croire que dans le passé, les gens étaient débiles, étaient moins intelligents que nous. Moi, dans l'histoire, en fait, je le vois souvent. Et puis, même dans les commentaires, par exemple, ne serait-ce que sur TikTok, on me disait toujours « Ah, mais ils avaient l'air trop chelous à cette époque !» vraiment, ils n'étaient pas normaux et tout. Oui et non. Enfin, il y a des choses positives et des choses négatives dans toute période. Donc, voilà, non, ils étaient
puis
pas...
Puis c'était leur époque, ils avaient une autre perception, enfin, il se passait d'autres choses. Donc, voilà, quoi.
Exactement. Donc, cette photo, ça représente bien, la dernière que j'ai envoyée, ça représente bien vraiment le truc de le mythe, en fait, tu vois, de la photographie post-mortem. Donc, clairement, voilà, si un défunt est debout, ce n'est pas un défunt.
Ok, mais par contre, ouais, je suis sur Google, photo post-mortem, j'en vois plein des enfants qui sont sur les genoux de leur mère ou sur des canapés qui sont posés comme ça et j'imagine qu'ils sont morts du coup, parce que sinon ça ne serait pas sous Google photo post-mortem, mais...
Oui, alors en fait, vraiment, comme je le disais, on les voit vraiment quand ils sont quand ils sont décédés. On le voit tout simplement, en fait, au physique un petit peu, je dirais pas disgracieux parce que c'est pas le bon terme, mais où tu, en fait, tu vois que la personne n'est plus vivante, tout simplement. En fait, on le voit vraiment. Et là, par exemple, il y a cette photo-là où il y a aussi, tu sais, la photographie spirit. C'est là, en fait, où il y a eu, un petit peu un mélange. À l'époque victorienne, ils adoraient aussi beaucoup, vendre des photos un peu dans l'univers du spiritisme, tout ça. Et du coup, ça a été un petit peu mélangé avec les photographies post-mortem. Et on a souvent, en fait, confondu une photographie qui était manipulée pour pouvoir la vendre et pour pouvoir faire du sensationnalisme et une photographie post-mortem. Là, la dernière photo que j'ai envoyée avec je crois que c'est une petite fille, oui, ça a l'air d'être une petite fille, où en fait, elle a le visage qui est flou par rapport à sa mère.
Oui.
Et bien, en fait, on pensait, sous prétexte qu'elle était assise et qu'elle avait un air un petit peu, tu sais, fantomatique ou quoi. Donc, les gens pensent directement soit photographie post-mortem, soit photographie spirit, sauf qu'en fait, non, pas du tout. C'est juste la petite fille qui bougeait trop.
Ouais, ou alors qui se sont endormies, par exemple. Parce que j'en ai vu une autre aussi où elle est complètement affalée sur les genoux de sa mère, mais ça se trouve, elle dort, parce que c'est la plus petite de toutes. Donc,
c'est
voilà,
ça. Il y a aussi un truc par rapport à la photographie en règle générale par rapport à l'époque victorienne. C'est qu'on expliquait que, du coup, il fallait faire... poser du coup les gens pendant 20 minutes. Sauf qu'en fait, ben, ça aussi c'est faux.
Ouais, que c'était long de prendre le cliché et tout.
C'est pas si long en fait. Enfin, Pour aujourd'hui, ça pourrait paraître long. C'est sûr, tu sais, quand tu dois rester 1 minute 30 à faire exactement la même pause sans bouger, c'est sûr que ça paraît long, tu vois.
Ouais. Mais apparemment, non.
Non, en fait, à cette époque, donc, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai plus les calculs en tête, j'ai plus les calculs devant moi, mais il me semble, et je crois que c'est ça, qu'au début de la création de la photographie, que ce soit pour post-mortem ou autre, le temps de pause, c'était d'environ 1 minute à 1 minute 30.
Ah oui, bah, ça va.
Et vers la fin du 19e, vu que du coup la photographie, enfin le daguerréotype a beaucoup évolué entre 1840, on va dire, j'arrondis, et 1890, ça a beaucoup évolué. Et vers la fin du 19e, c'est passé de 1 minute à, je pense, entre 40 secondes et 25 secondes, tu vois. Ça a beaucoup évolué et c'est devenu de plus en plus rapide, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mythe aussi? J'essaye je dis pas abréger un petit peu, parce que le truc, en fait, c'est que plus tu en apprends sur une photographie post-mortem, et plus tu te rends compte, en fait, il y a encore plus de choses à apprendre, tu vois. Donc les stands de pose, là, qu'on appelle ça, là. J'ai perdu le terme.
Les trépieds.
Le trépied. Voilà, merci. Donc le trépied, en fait, c'était utilisé pour faire tenir en fait une personne qui avait la flemme de maintenir sa pose pendant 1 minute 30. Parce que c'est vrai que quand tu dis comme ça, ça n'a pas l'air long, mais fais le test de tenir pendant 1 minute 30 exactement dans une position, tu sais, genre en plus avec l'artillerie de l'époque, tu vois.
Ouais, ta robe qui fait 15 kilos et...
Voilà, c'est ça, exactement. Avec l'enfant qui fait que bouger, tu vois, avec toutes les fleurs à côté, si jamais tu décides de mettre des fleurs ou quoi, bah c'est encombrant quand même, 1 minute 30, tu vois. Donc du coup, parfois, ils inventaient en fait des trépieds pour faire tenir debout une personne qui était un peu flemmarde, tu vois, et qui devait attendre 1 minute à 1 minute 30, du coup, pour faire la photo. Okay, donc ça a été créé par rapport à ça.
Ça explique le trépied. Ok. Parce que souvent, sur les photos, on voit qu'ils entourent le trépied derrière en mode « Regardez, c'est la preuve que c'est un corps !»
Oui.
Mais en fait, non. C'est juste qu'ils avaient la flemme.
En fait, c'est ça. Ça reste des gens normaux, comme toi et moi, qui étaient flemmards aussi, qui voilà, n'avaient pas spécialement envie de s'embêter à faire tout ça, quoi. Donc voilà, et c'était surtout aussi pour éviter le mouvement de flou sur la photo. Voilà, que ce soit pour les mains par exemple, ou alors surtout le visage, c'était pour éviter, parce que le truc, c'est que vu qu'à l'époque c'était très fragile, il suffisait que tu bouges juste légèrement, puis en fait vraiment c'était limite, ta photo elle était claquée, elle était finie, il fallait que tu la recommences, tu vois.
Ah oh, putain, Edouard, arrête de bouger, on va devoir attendre encore 1 minute 20.
C'est ça, et fait tenir un enfant à côté de toi, qui fait que bouger, qui fait que hurler, râler, ou alors tu sais, enfin voilà, il est impatient, c'est normal, tu vois. Donc voilà, et en fait je pense que le problème de ce mythe de la photographie post-mortem. Après, voilà, comme je dis, je ne suis pas une experte, mais de ce que j'ai compris au vu de toutes mes recherches, c'est vraiment à cause d'Internet. Vraiment, à cause d'Internet. Alors, je crois que c'est sorti, il me semble, vers 2008, quelque chose comme ça. Il y a des articles, en fait, qui ont commencé à sortir. Alors, pourquoi, du coup, comment ils ont décidé de s'intéresser aux photographies post-mortem à cette époque-là, je sais pas. Mais il y a, en fait, ça a été, tu sais, un peu effet boule de neige. Donc, vers 2008, il y a un article qui est sorti, qui, en fait, a fait un énorme amalgame entre la photographie post-mortem, les enfants qui dorment, tout simplement, les adultes, tout ça. Il y a une autre photo qu'il faut que je te montre aussi. Et ça, c'est vraiment, cette histoire, elle est rigolote, je l'ai apprise récemment. Et donc, en gros, cette histoire, en fait, cet article a été repris par de gros blogs, entre guillemets, tu vois, par exemple, comme Science Blog, à ce qui paraît, qui est un peu une des pointures, tu vois, en termes de science, tout ça.
Okay.
Et en fait, eux, ils ont repris aussi cet article. Et vu que, voilà, mais comme je disais, ce sont des médias qui sont très importants, enfin qui à l'époque étaient très importants entre 2008 et 2012, tu vois, et bien du coup, les gens, ils se sont dit « Ah ouais, c'est vrai. » Sauf qu'il n'y a pas de source.
Ouais.
Tu vois, il n'y a pas vraiment de source. Quand tu vas, tu tapes photographie post-mortem BBC, il n'y a pas de source. En fait, c'est juste BBC qui reprend ce qu'ils ont vu, tu vois, autre part.
Après, il suffit d'un mauvais journaliste et à la BBC, et ça y est, enfin, voilà, quoi, c'est pas...
C'est... Ouais, c'est ça. Là, j'ai trouvé l'article. Hop. Et c'est vraiment cet article-là. Moi, je me rappelle quand j'ai fait vraiment la troisième vidéo, je crois, vraiment, où j'ai débunk, j'ai montré, tu vois, cet article et tout. Et bien, par exemple, sur la photo, tu vois, ils disent... que la petite fille toute derrière, eh bien, elle est morte.
Ouais.
Parce qu'en fait, tu vois, par rapport aux autres, elle a un air, tu sais, elle a la tête un peu en arrière. Tu vois,
les yeux un peu fermés. Ouais.
C'est juste...
Elle a cligné des yeux, quoi.
Elle a cligné des yeux, et puis, tu sais, elle a un peu bougé. Voilà, et en fait, on a vraiment ce mélange, en fait, de mythes. Tu vois, époque victorienne est égale aux histoires de fantômes, est égale aux spooky, tu vois, aux creepy, parce qu'ils étaient, très à fond dans tout ce qui est le deuil, la mort, parce que la mort faisait partie de leur vie, comme tu disais au début. Et du coup, en fait, ça paraît limite normal de faire des photographies post-mortem avec des gens debout, tu vois, à cette époque. Sauf qu'en fait, ça, c'est la culture populaire, c'est les journaux, c'est Internet, et c'est les films aussi. Des films et séries. Il y a une série que je regarde pour m'endormir une fois qui s'appelle Dead Still.
Ok.
Je t'éclaire. Et en fait, ça parle, tu vois, justement, de la création de la photographie post-mortem durant l'époque victorienne en Irlande. Et en fait, l'histoire, c'est un photographe qui s'appelle Brock Belenor Asset qui prend en fait des défunts en photo. Il y a un petit côté un peu Agatha Christie où en fait il va y avoir une enquête, tu vois, sur un livre des morts où en fait c'est quelqu'un qui prend en photo des défunts, et en fait ces défunts là c'est des gens qui ont été tués, bon bref, blablabla.
Ah, mais c'est trop bien, je savais pas qu'il y avait une série.
Et franchement, la série est vraiment cool. C'est une petite série, je crois elle fait 5 ou 6 épisodes, un truc comme ça.
Okay.
Elle est pas très très connue, et en fait l'opening de la série, parce que moi je regarde vraiment ça pour m'endormir, alors oui, c'est étrange dit comme ça, mais moi ça me fait dormir. L'opening, regarde-le, tu vas comprendre l'épisode. Regardez-le, chers auditeurs, vous allez comprendre ce que je dis. C'est pas glauque, hein, vous inquiétez pas. Mais en fait, c'est du coup le photographe qui met en scène du coup une défunte, une jeune défunte, tu vois, assise sur une chaise, tu vois. Et lui, il la prend en photo, et comme si c'était tout à fait normal. Sauf que, non, en fait, ce n'est pas possible. C'est juste pour la série qu'ils ont fait ça, tu vois. Mais sauf que, vu que c'est un lien en rapport avec une période qui a vraiment existé, en rapport avec des rites funéraires qui ont vraiment existé, les gens ont souvent tendance à confondre réalité et fiction.
Okay.
Et moi, ça me tue, parce qu'à chaque fois que je regarde ça maintenant, tu vois, parce qu'avant, moi, j'y croyais. Hein. Clairement, je vais être honnête, moi je suis tombée dans le panneau. Vraiment, pendant des années, j'étais persuadée qu'on prenait des défunts en photo debout. Tu vois. Et c'est vraiment il y a un an et demi, deux ans, où en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte, j'étais tombée sur un article en fait, justement, qui disait tout le contraire. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à chercher des sources, etc., des scientifiques, des professionnels. Et même, en fait, tout simplement, quand tu te. Comment dire ? Je sais pas, on va dire que t'es un Anglais qui retrouve dans un grenier, tu vois, je sais pas, un livre, tu vois, de photographie post-mortem, imaginons. Et bien, en fait, historiquement parlant, tu verras toujours que des photos de gens qui sont couchés.
Ok.
Et jamais de gens qui sont debout, tu vois. Et donc, en fait, il y a des gens sur Internet qui répertorient justement les fausses photographies, des vraies photographies. Et moi, j'étais vraiment tombée dans le panneau, tu vois. Et comme quoi, bon voilà, personne n'est parfait, même moi.
C'est pas grave, Billy, on te pardonne.
Voilà, merci, parce que j'avais quand même fait une vidéo YouTube et tout, tu vois, sur les photographies post-mortem et tout. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, comment la désinformation, elle peut vraiment nous faire croire tellement de choses, alors qu'en fait, non. Donc ouais, c'est ça, en fait, c'est tout simplement Internet. qui a créé le mythe de la photographie post-mortem, parce qu'ils ont mélangé en fait fausses photographies post-mortem qui ont été modifiées par des gens random comme toi et moi, tu vois, le mythe vraiment de la photographie spirit qui était extrêmement populaire à cette époque. La photographie spirit, et il faut que je te retrouve vraiment cette photo, franchement, tu vas me... Ah, elle est là. Ça, je l'ai découvert il y a une semaine, et tu le vois direct que c'est pas une photographie post-mortem, mais il y a beaucoup de gens qui y ont cru. Et je vais te dire après ce que c'est.
Ok.
Cette photo, voilà, elle est là.
Ah, c'est creepy. Tu elle m'envoies est... des dingueries.
Elle est creepy.
Je... Non,
attends,
je la ferme.
C'est ton podcast, là. Il s'appelle C'est creepy.
Ah, donc, c'est horrible.
Cette photo est totalement fausse.
Ok, thank
you. En fait, c'est une photo qui a été, qui a été modifiée via, je pense, certainement Photoshop, par rapport à un caractère, à un personnage, en fait, d'un livre de H.P. Lovecraft. Il était sorti en 1930. Alors, le nom, c'est le nom en anglais. The Shadow Over Innsmouth, pour ceux qui connaissent. Voilà. C'est une nouvelle, à ce qui paraît, de H.P. Lovecraft. Et en fait, c'est tout simplement une personne qui a voulu recréer, en fait, le personnage du livre. Sauf que vu qu'il y a ce côté, vieille photo...
Oui.
Avec les vêtements, et en plus, je suis même pas sûre que les vêtements datent du 19e, tu vois, peut-être que si. Mais voilà, mais le visage, vraiment, je te rassure, c'est un faux visage. Ce n'est pas une vraie personne.
Ouais, on dirait une vieille gouvernante super stricte qui va bouffer ton âme.
Ouais, clairement. Moi, ça me fait beaucoup penser, ce genre de photo, au livre, je sais pas si tu connais la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers.
Si, oui.
Et bah exactement, vraiment, moi, c'est l'une de mes sagas préférées, vraiment. Et en fait, dans le livre, il y a beaucoup de photos comme ça. Sauf que ces photos-là, c'était, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est des photos qui ont été vraiment récoltées par l'auteur, en fait, dans des brocantes et tout, pendant des années. Et je crois que toutes les photos qui sont dans le livre sont de vraies photos. Mais c'est pas des photos qui datent spécialement de l'époque victorienne, c'est des photos qui datent aussi de l'avant-guerre et l'après-seconde guerre mondiale, je crois que c'est ça, hein. L'histoire, il me semble que il y a une histoire par rapport à la seconde guerre mondiale, ben oui, c'est ça, Miss Peregrine. Donc voilà. Donc toutes ces photos un peu, tu vois, spooky, moi ça me fait vraiment penser à ça, tu vois.
Ouais, bah carrément. C'est exactement ça. Et justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur les photographies spirit. Il y a peut-être Kurt d'Obscurum Podcast qui fera sûrement un épisode dessus, je pense. Parce qu'on avait regardé dans son live des photographies. Alors, je ne connais plus le nom de l'artiste, mais il y avait un mec qui à l'époque, photoshopait des fantômes sur vos photos et tout, et il se faisait du bise comme ça. Et les gens venaient le voir exprès pour ça, je crois, un délire du genre. Et la plupart des gens pensaient que c'était des vraies photos. Et après, il s'est fait péter et c'est là qu'il a commencé à être un peu moins populaire. Mais elles sont vraiment stylées, ces photos, donc n'hésitez pas à aller voir aussi les photographies spirit. Voilà, je fais une petite dédicace à Kurt. Qui en parlera, je pense. Enfin, j'espère. Voilà.
Bah ouais, c'est un très très bon sujet. Alors, la personne qui a été... ça s'est passé durant le 19e. Le photographe qui a été pété, là. Il me semble que cette histoire...
Je vais regarder vite fait.
Je la connais, ouais.
Peut-être, ouais.
Il me semble... Oui, mais de toute façon, c'était très populaire à cette époque. Donc, il y a beaucoup de... Comment on appelle ça ? Magasin photographique qui surfait sur cette vibe en France aussi. Faut pas croire, hein, en France, beaucoup. Donc oui, en France, la photographie spirit, c'était extrêmement populaire. Bah, de toute façon, l'Angleterre et la France a une histoire, tu vois. Donc,
bah là, c'était aux États-Unis. Là, je viens de checker, il s'appelait William Mumler. C'était en 1861. Voilà.
Oui, William Mumler, oui, ok. Oui, ouais. Et pendant des années, les gens pensaient que c'était de vraies photos, tu vois. Même encore aujourd'hui, il y en a qui y croyaient.
C'est tellement grossier. Enfin bon. Je pense
non,
qu'à l'époque.
Ce rigolo.
Enfin, quand je dis c'est grossier, c'est juste. Là, j'en ai une devant moi. C'est... Ça fait un peu grossier. Mais il y en a qui sont très bien faites. Hein. Franchement, je ne sais pas comment ils faisaient ça, mais c'est stylé. En tout cas, il y en a qui sont très très belles, qui font très illustration. Enfin, tu vois.
Oui.
Très jolie. Pensez stylé.
Mais on a tendance à croire que Photoshop a inventé la manipulation photo, mais en fait, la manipulation photo existe depuis le 19e, depuis la création de la photo, en fait. La manipulation. Par exemple, on pensait que les corsets, les femmes portaient des corsets tellement serrés qu'elles avaient la
ah
taille
oui,
d'une guêpe.
Les photos étaient retouchées un peu. Ouais.
Sauf que oui, voilà. Les photos étaient
ah
retouchées.
Ouais.
La photographie spirit, alors là...
Kim Kardashian en sueur.
C'est vrai. Kim K. Mais oui, ça existe depuis tellement d'années. Enfin, c'est vraiment...
C'est intéressant.
Oui. Ben, j'écouterai le podcast. Tu pourras m'envoyer le lien du coup du monsieur là que tu as...
Oui, Kurt, il vient de sortir son podcast Obscurum Podcast et il va faire un sujet là-dessus, je pense. Pour l'instant, il a que quelques épisodes d'affaires criminelles pour l'instant, mais il va aussi... En fait, il fait tous les trucs Obscurum, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc,
okay.
ça va être stylé.
Oui, mais du coup, ouais. Moi, je pense que j'ai traité un petit peu tout ce qu'il fallait. Enfin, du moins, tout ce que je connaissais. Donc, voilà. Après, si toi, jamais t'as des questions ou quoi, n'hésite pas.
Alors, j'ai pas de questions. Je crois que j'ai tout posé pendant qu'on était en train de parler. En même temps, j'ai été voir sur Wikipédia photographie post-mortem. Et, et ouais, tu disais que ça existe toujours aujourd'hui et effectivement, il est écrit que c'est encore pratiqué dans certaines régions du monde comme l'Europe de l'Est, et je savais pas.
Ah, ok.
Enfin, des photos funéraires plutôt, on va dire.
Oui, pas des photographies.
Enfin, c'est pareil, j'ai envie de dire. Mais,
bah, ouais. Oui, parce qu'après, il y a aussi, tu vois, tu viens de me faire rappeler quelque chose qui est quand même assez important à rappeler aux gens, c'est que la raison pour laquelle aussi les photographies post-mortem, on n'en faisait pas beaucoup, c'est tout ce qui est niveau sanitaire. On ne peut pas trimballer un défunt pendant une semaine, alors le temps qu'il y ait la commémoration funéraire, enfin, tu sais, genre le cercueil dans la maison... avec du coup toute la famille qui vient, etc. Tout ça, enfin déjà ça prend du temps. En été, je t'imagine pas le bordel avec toutes les odeurs et tout. Et comment reconnaître une photographie post-mortem aussi, ce qui est très important, c'est que donc comme je disais au tout début, donc c'est souvent très souvent les enfants et aussi les personnes qui sont couchées, donc soit dans des cercueils, soit dans des lits un petit peu, tu sais, genre appropriés pour. Et surtout parce qu'ils sont très souvent entourés de couronnes de fleurs ou de fleurs en règle générale, tout simplement pour cacher la mauvaise odeur et pour faire joli sur les photos.
Ah, ok.
Voilà. Donc il y a vraiment cet aspect aussi sanitaire et c'est un aspect auquel on ne pense pas spécialement, mais c'est pour ça qu'on ne prenait pas beaucoup de photographies non plus funéraires, enfin de défunts. Bah, parce qu'au bout d'un moment, ça pue, quoi. c'est un corps en décomposition, quoi.
Ouais.
Donc, on est au 19e siècle, il n'y a pas les frigos, c'est très compliqué. L'été, c'est horrible, il faut limiter, tu sais, genre, limite, il faut limiter à 3 jours, tu vois, tout ce qui est, j'appelle ça commémoration funéraire, mais bon, les gens comprendront, je ne sais plus comment on appelle ça là, exactement, je crois qu'il y a un terme, quand la famille vient, tu sais, pour présenter ses condoléances, etc. Tu sais, pendant l'été, fallait limiter ça, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais quand même préciser, mais oui, le côté sanitaire était quand même très important, et comme je disais, les gens n'étaient pas débiles non plus, quoi.
Ouais.
Ils faisaient quand même attention un minimum. Voilà.
Ok, bah écoute, c'était trop intéressant. J'ai pas d'autres questions là tout de suite, mais si jamais vous avez d'autres questions, nos chers auditeurs, vous pouvez toujours les poser en commentaire sur Spotify. Du coup, est-ce que t'es prête pour mon histoire, enfin mon histoire, mon sujet plutôt?
Oui, je suis très intéressée, je suis très curieuse de ce que tu vas nous raconter.
Ok, alors moi je vais vous parler de momies comestibles, Enfin non, pas vraiment. Et c'est justement ça le sujet. Mais bon, on va y venir plus tard. Il semblerait qu'on mangeait des momies à l'époque victorienne et même bien avant ça. Tout aurait commencé au XIe siècle. En effet, les Européens médiévaux qui lisaient beaucoup, parce que naturellement TikTok n'existait pas encore, sont tombés sur des écrits anciens dans lesquels ils ont lu qu'il existait une substance nommée mumia, M-U-M-I-A, qui aurait tout plein de vertus médicinales et qui transpirait littéralement des corps des momies égyptiennes. Et ils se sont dit, waouh, mais c'est trop bien, j'en ai une dans mon garage, je vais tester ça ce soir. Donc du coup, ils lisent ces textes et ils pensent être tombés sur le baume du tigre originel. Sauf qu'en fait, il y avait confusion avec autre chose. Il se trouve que les textes ont mal été traduits et les auteurs ne faisaient pas du tout référence aux momies égyptiennes, mais bien à une substance nommée mumia qui était un produit qui suintait. Oui, mais de l'asphalte de roche noire, et on trouvait ça sur le flanc des montagnes persanes, donc rien à voir. Ça ressemblait à de la cire, et c'est justement du mot cire qu'elle a tiré son nom, donc la cire ça se disait mom, et du coup ils ont appelé cette substance le mumia.
Oui.
Mumia, je sais pas comment ça se dit.
Mumia, oui, il me semble effectivement que j'avais vu ça, ouais. Comme quoi.
T'en as dans ta salle de bain.
J'en avais entendu parler par rapport à ça. T'imagines ? J'en ai dans ma salle de bain tous les matins. mais ouais, comme quoi, hein, la traduction, ouais, c'est extrêmement important dans l'histoire.
Effectivement.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Mais ça n'avait absolument rien à voir avec les momies. Ce sont juste les traducteurs du XIe et du XIIe siècle qui ont tout de suite pensé à elles, sauf que pas du tout. Et ils n'ont rien remis en question. Ils ont traduit ça tel quel, ils ont lu mumia et ils se sont dit, bah, c'est de la crème de momie. Appliquée topiquement une à deux fois par jour, c'est tout à fait normal, je vais m'y mettre dès ce soir. Sauf que non. Donc voilà, depuis le XIe siècle, il y a cette fausse croyance en médecine que le jus de momie a des vertus médicinales. Elle soignerait absolument tout en allant des maux de ventre, maux de tête, jusqu'au cancer. Et d'ailleurs, si ça n'a pas choqué les traducteurs médiévaux, c'est parce qu'il y avait plein d'autres pratiques de médecine cheloues à l'époque. J'ai nommé, bien évidemment, les saignées en number one. Cœur sur vous, les saignées.
Oh.
Voilà, on coupe le patient, on lui fait perdre 2-3 litres de sang, puis on le renvoie chez lui en lui disant que ça va passer. Il y avait aussi certains médecins médiévaux qui recommandaient la pratique de la mithridatisation, qui consistait à ingérer régulièrement de petites quantités de poison dans le but de développer une immunité. Why not?
Oui, j'en avais entendu parler aussi, ouais, effectivement. Ouais.
Nous-mêmes, on le fait, hein, un peu avec les vaccins, n'est-ce pas? Complotiste!
Bah oui, clairement. Covid!
On avait aussi des traitements à base d'urine appliqués ou ingérés. Et puis, dans les plus farfelus, on pensait aussi que boire du sang de gladiateur, c'était très bénéfique pour traiter les crises d'épilepsie. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est pas qu'ils étaient cons, mais ils avaient d'autres croyances. Voilà.
Oui. Russell Crowe en sœur, quoi. Je crois que c'est lui l'acteur de Gladiator. Ah, purée, je connais pas du tout tout ça, tu vois. Ça, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est intéressant, mais c'est quand même, ouais, c'est glauque, hein, quand même, de se dire. Il y a eu aussi, il me semble, comment on appelle ça, là? Les espèces de sangsues. On utilisait ça pour les saigner.
Ah oui, les sangsues, je l'ai pas mis, mais ouais.
Ouais, les sangsues, ouais, pour les saigner, ouais. C'était très médiéval, ça.
Ça, ouais, ça revient au même principe de la saignée, quoi. Faut qu'on t'enlève ton sang. Ouais. Parce qu'en fait, à l'époque, alors, je l'ai pas écrit, mais donc du coup, je vais mal l'expliquer. Mais en gros, à l'époque, dans la médecine, ils pensaient que on avait, je crois, 4 humeurs dans le corps. Enfin, c'est des humeurs qu'ils appelaient ça.
Oui.
Et en fait, si t'avais un déséquilibre de tes humeurs, fallait qu'on les fasse partir de ton corps, tu vois, pour que ça se rebalance et enfin se rééquilibre, pardon. Et du coup, ils faisaient une saignée et pour que ça s'échappe de toi et tout. Donc voilà, je rentre pas trop dans les détails, ouais, parce que je me souviens plus trop. Mais c'est ce délire là, quoi, en gros.
Et tout ça, cette histoire d'humeur là, ça a persévéré aussi, hein, pendant le 19e.
Ah ouais.
Notamment tout ce qui est hystérie chez la femme.
Bah oui.
C'était un peu le même genre de truc. Mais d'ailleurs, il me semble, oui, la théorie des humeurs. Il y a l'histoire, on le dira, qui a sorti une vidéo hier, justement, par rapport à ça. Je voulais la regarder.
Ah, trop bien.
Donc, du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis, ouais.
Comment elle s'appelle ?
Théorie des humeurs.
Ok, voilà, la théorie des humeurs de l'histoire, nous le dira. Je la mets en description, sur mon site, que vous pouvez trouver en description. Souvent, vous me demandez où est-ce qu'elles sont les liens et les photos dont elle parle tout le temps dans cet épisode. Bah, en fait, sous l'épisode, c'est un peu chiant des fois accéder sur Spotify, mais vous pouvez voir le lien de mon site, et une fois sur mon site, ça vous emmène à l'article du sujet de l'épisode. Et voilà, ensuite, vous pouvez voir toutes les photos, toutes les vidéos, toutes mes sources, etc. etc.
Ah, c'est bien ça.
Donc voilà. Après tout ça, quand je vous parle de vous appliquer de la crème de momie, ça vous choque plus tellement. Et c'est pour ça que les traducteurs n'ont pas été trop choqués non plus à l'époque. Et on appelait même ça le cannibalisme médical. Et ça suit leur croyance de l'époque, selon laquelle le corps humain possède des propriétés qui pourraient guérir d'autres humains. Voilà, on bouffe certains humains qui sont en bonne santé, grossièrement, c'est ça, pour récupérer leur bonne santé, tout simplement. Il y avait même j'ai lu des trucs comme quoi on pensait plutôt qu'il fallait vraiment se nourrir de viande fraîche parce que dedans il y a du sang, donc le sang c'est la vie, donc bref, voilà, un délire comme ça. Si ça vous intéresse,
ouais,
allez faire des recherches. C'est pour ça qu'ils sont obsédés avec le sang, etc. Mais du coup, pour se soigner à la momie, faut du stock. Faut de la momie en masse.
Ouais.
Parce que la demande ne cesse de croître. Donc pour répondre à cette demande, il va y avoir de plus en plus de pillages de tombeaux, malheureusement. Soudain, on ne les pillait plus seulement pour récupérer les trésors qui s'y trouvaient à l'intérieur, les bijoux, les objets de valeur avec lesquels les corps étaient enterrés, enfin embaumés plutôt. Mais maintenant, on prenait aussi les cadavres avec. Si bien qu'au bout d'un moment, il y a eu une rupture de stock. Sold out. Et là, vous vous doutez bien, ils se sont pas arrêtés là. Ils ont pallié à ce manque en embaumant des cadavres beaucoup plus frais qu'ils avaient sous la main, comme des criminels ou des esclaves de l'époque fraîchement décédés, pour continuer à se faire du fric sur le business des momies qui faisait fureur. Alors, je dis pas que c'était une norme de fou de remplacer les momies par des cadavres plus frais. Mais ça, c'était certaines personnes de l'époque qui ont essayé de profiter du business de momie, quoi.
Et j'imagine que c'est 99,9% des temps, la classe aisée, les riches entre guillemets, qui s'amusaient à faire ce genre de choses. Parce que je pense pas que la classe populaire qui travaillait s'amusait à bouffer, tu vois, de la momie pour
ouais.
Ça, quoi. Enfin, je
sais,
pense.
Franchement, je sais pas, mais on va en reparler peut-être après, peut-être que ça va nous donner une indication. Mais ouais, je sais pas trop. J'ai l'impression que c'était vraiment, enfin, de ce que j'ai lu, j'ai l'impression que c'était vraiment une normale pour tout le monde, en fait. J'ai pas trop une indication du prix.
D'accord.
Que ça coûtait. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc je sais pas trop.
Ok.
Mais ça avait l'air d'être populaire. Après, dans quelle classe, je ne sais pas trop. Donc, ouais, il y avait plein de body snatchers, comme on les appelle, des voleurs de corps. Ils sortaient la nuit pour subtiliser les corps des criminels qui étaient pendus. Et ensuite, ils tentaient de les faire passer pour des momies anciennes en les embaumant avec du gros sel ou des fois en essayant de les faire sécher dans des fours. Enfin bref, ils ont tout essayé. Encore une fois, je répète, cet épisode n'est pas un tuto. Ne faites pas ça à la maison.
Non.
Pour pallier à ça, il y a quand même eu quelques tentatives de régulation et de réglementation, notamment en 1858, quand a été créé le service des antiquités de l'Égypte sous la direction d'Auguste Mariette. C'était une initiative qui avait pour but de protéger le patrimoine culturel égyptien en réglementant les fouilles et en luttant contre le trafic illicite d'antiquités. Mais bon, on pouvait encore en trouver au marché des décennies plus tard, en 1875 par exemple, en Égypte et en plein jour. Je vous mettrai quelques photos sur mon site de ces vendeurs de momies, comme ça vous verrez que ce que je vous dis est bien vrai.
Oui, j'avais vu ça, ouais. J'avais vu ces photos. Mais de toute manière, il y avait une fureur. Enfin, c'était la mode hein, au 19e siècle. On appelle ça, je crois, l'égyptomanie, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, je vais en parler après.
Il y a vraiment cette fureur du 19e où vraiment les gens étaient complètement obsédés en fait, par la culture de l'Égypte antique et plus particulièrement par les momies. Mmh.
Ouais, justement, là, je vais en parler. Donc, en fait, depuis le 11e siècle, pardon. Donc, depuis le 11e siècle, ça a continué comme ça. Encore pendant des centaines d'années, pendant près de 500 ans, votre docteur vous prescrivait de la momie sous toutes ses formes, mais surtout sous la forme la plus répandue qui était en poudre. Et vous pouviez très facilement vous procurer cette poudre de momie chez votre apothicaire le plus proche. Donc voilà, je répète, je ne sais pas trop si c'était cher, si c'était vraiment une médecine commune ou si c'était vraiment genre quand même, tu vois, genre un petit peu considéré comme rare. Mmh. J'ai pas l'impression, mais je sais pas. Franchement, je ne sais pas.
Moi, ouais, après, je pense que c'est possible que toutes les classes, enfin, entre guillemets, toutes les classes soient concernées. Mais c'est vrai que étudiant, entre guillemets, me renseignant sur l'histoire depuis toujours, j'ai quand même eu ce truc où il y a souvent des liens entre la classe aisée, entre guillemets, et les classes riches, qui, en fait, eux, étaient tellement extravagants dans leur mode de vie, entre guillemets. Bon, pas tout le monde, bien sûr.
C'est toujours le cas, hein. Ouais.
Bien sûr, aujourd'hui, voilà, bon, il y a tout ça.
Des gens qui se font injecter ou qui se font des soins un peu chelous, j'ai entendu ces jours-ci, voilà. Avec du sang ou des trucs comme ça. Donc, bon.
Il y a toujours des pratiques comme ça, ça a toujours existé dès qu'on est riche. Enfin, je dis pas tout le monde non plus, mais.
Non, c'est pas mon cas.
Mais plus particulièrement quand.
Non, je rigole.
Alors, moi non plus, je ne suis pas riche, mais même je pense que le jour où je serai riche, je n'ai pas envie de m'injecter de la poudre ou de mon mise par la tronche. Franchement, ça ne me tente pas du tout, tu vois. Mais oui, j'avais souvent appris en fait que pendant l'époque victorienne, en fait, c'était souvent les riches qui étaient vraiment les plus what the fuck, tu vois, en termes de décès médicaux, si je peux dire ça comme ça.
Après, peut-être que aussi, c'était peut-être accessible à tout le monde parce que ce qui prescrivait, c'était genre une toute petite dose, tu vois, tu te prenais pas une cuillère à soupe par jour, peut-être, tu vois.
Ouais.
Je pense.
Bien.
Il y a peut-être un dosage. Qui la rendait accessible à tout le monde. J'en sais rien, en tout cas.
Ouais,
mais je suis contente de ne pas avoir vu qu'il a sniffé, par contre, quand même.
Ah, non. Mais laissez ces momies tranquilles, bordel.
Alors, comment on fait de la poudre de momie, vous allez me demander? Bah, tout simplement, il prenait des morceaux de momie, il les mixait, il les réduisait en poudre, et ensuite, il l'incorporait dans des crèmes, etc. Mais pas que, ils en faisaient aussi des petits accessoires style amulettes, des petits porte-clés, parce que voilà, un gros orteil de momie au bout de tes clés de boîte aux lettres, ça fait toujours plaisir comme cadeau, c'est, enfin, tu vois.
Etsy avant l'heure, quoi. La boutique Etsy avant l'heure. Allez, non, je dirais plus AliExpress, tu vois, allez, c'est comme veut. Oh mon dieu.
Ou alors on utilisait aussi la poudre comme pigment pour colorer les palettes des grands peintres et ça a donné naissance à la couleur marronasse qui porte aussi leur nom, momie, tout simplement, le momie brown. C'était très en vogue.
Momie brown, ouais.
C'est ouf. Dites-vous qu'il y a des tableaux qui sont peints, qui existent toujours avec le corps des gens, littéralement, et qui ont vécu à l'époque d'Égypte antique. Enfin, c'est dingue, bref. Du coup, ça nous amène à notre fameuse époque victorienne, qui est pas si loin que ça, hein, en vrai, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est creepy, je trouve, c'est de se dire que c'était il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, tout est relatif, mais voilà quoi. On y est plus proche que les gens du 11e siècle. Hein.
Bien sûr, hein, oui, non, au final, c'était il y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était vraiment... Non, pas du tout.
Et du coup, comme tu disais, à l'époque victorienne, il y a eu un regain d'intérêt pour tout ce qui touchait à l'Égypte, notamment à cause de la colonisation. Et j'ai envie de dire, il y en a toujours eu un intérêt, je trouve, pour l'Égypte. Enfin, moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'aimais trop tout ce qui touchait à l'Égypte antique. Enfin, c'est passionnant, en vrai. Hein. C'est toujours passionnant.
La momie.
Ouais, la momie.
Le film.
Enfin, je sais pas toi, mais moi, j'aime toujours apprendre des faits sur l'Égypte. C'est toujours ultra, ultra cool.
Parce que c'est une culture qui est tellement... mystique.
Ouais.
Il y a ce côté très mystique aussi, avec... la perception aussi, enfin leur culture en rapport avec la mort, en rapport, il y a beaucoup de rites funéraires, voilà, qui ont été inventés entre guillemets pendant l'Égypte. Donc je trouve que c'est très très très, c'est très mystique et du coup ça donne envie d'apprendre. Tu vois.
Ouais, on apprend toujours quelque chose de nouveau, je trouvais, avec l'Égypte. Il y a toujours un truc à apprendre. Donc voilà, et comme tu disais, les Victoriens, enfin les Anglais britanniques, ça veut rien dire, les Anglais...
Non, les Victoriens, hein, c'est bien les Victoriens,
oui,
les Victoriens, c'est très bien.
En fait, à cette époque, ils étaient un petit peu trop obsédés, justement, et ça s'appelait l'égyptomania, comme tu nous as dit.
Ouais. Oui.
Et vous n'êtes pas sans savoir que l'Angleterre, et plus globalement le Royaume-Uni, est connu pour, comment dire, piller la culture des autres pays pour ensuite remplir leurs musées, n'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis, hein, suffit de s'intéresser à l'histoire des musées britanniques pour se rendre compte de toutes les controverses qu'il y a eu avec leur contenu jusqu'à aujourd'hui.
Ah oui, c'est pas une époque qu'on peut glorifier. Moi, c'est pas parce que j'en parle que ça veut dire que je glorifie l'époque victorienne. Attention, il y a énormément d'aspects négatifs.
Ah bah oui.
Le racisme, il y a eu des trucs, par exemple, j'ai plus le terme en le truc universel là, que le roi Albert il avait créé, un espèce de musée hyper grand, tu vois.
L'exposition universelle.
Oui, voilà, merci. L'exposition universelle, tu vois, qui a été créée entre guillemets par le prince Albert, donc qui était le mari de la reine Victoria. Et dans cette exposition universelle, comment dire qu'il y avait des trucs du style déjà il y avait tout ce qui était animaux, tu vois, dans des cages et tout, quand ça c'était horrible. Il n'y avait pas que des animaux.
Ouais.
Il y avait aussi des êtres humains. Des personnes de couleur, tout simplement, qui étaient exhibées comme des objets. Et du coup, tout ce qui a trait à l'Égypte aussi, effectivement, ça en fait partie, quoi. Donc, c'est une période qui est aussi extrêmement dark, si je peux dire ça comme ça.
Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, par exemple... plonger dans la sauce.
Allez.
L'une des controverses les plus notables au sujet du contenu des musées britanniques concerne les marbres d'Elgin, les marbres du Parthénon, qui sont des sculptures grecques classiques qui ornaient autrefois le Parthénon à Athènes. Et ils ont été enlevés par Lord Elgin, d'où leur nom, au début du 19e siècle, lorsque la Grèce faisait partie de l'Empire ottoman. Et la Grèce demande depuis longtemps qu'on le leur rende, ces marbres, en affirmant qu'ils ont été pris illégalement, et un musée dont je tairai le nom, le British Museum, refuse constamment cette restitution. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc,
Ah ouais ? Ah, ça, je ne savais pas du tout.
Ah bah, il y a plein de trucs comme ça, où même, je crois aussi, ils ont un bif aussi avec l'Égypte, justement, qui voulait récupérer plein de trucs,
oui.
Et ils veulent pas, enfin... enfin, voilà, quoi, en gros...
Oh là là !
Ouais.
British Museum, là. Hein.
Non, mais wesh. Hein.
Ah là 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 là.
Voilà. Et donc, il y a ça et tous les artefacts autochtones, tous les objets que les Britanniques ont pris lors de leurs diverses colonisations à travers le monde. Bref, revenons-en à nos momies. En 1834, il y avait un monsieur, un Anglais du nom de Thomas Pettigrew, qui était lui aussi un fanat d'Égypte antique. Donc, Thomas, il était aussi connu sous le nom de Momie Pettigrew. C'était un chirurgien et un antiquaire qui s'était spécialisé dans les momies de l'Égypte antique. Il a acquis une certaine notoriété au sein des cercles sociaux de Londres en organisant des soirées privées où il expose et examine des momies dans le but de divertir ses invités. Et justement, le 15 janvier 1834, il organise une de ces soirées pour le public qui prendra place au Royal College of Surgeons à Londres. Et les tickets partent très vite et il fait salle comble. Et qu'est-ce qu'il a concocté ? Eh bien, Monsieur Pettigrew, il va dérouler les bandages d'une momie authentique datant de la 21e dynastie.
Wow.
Et c'est pour ça que les gens ont accouru.
Ouais, ouais.
Et comme beaucoup de ses pairs antiquaires slash archéologues, il revenait de tous ses voyages en Égypte avec une momie. C'était automatique. Il y a d'ailleurs un aristocrate et moine trappiste français, l'abbé Ferdinand de Guérand, qui a déclaré en 1833 qu'il serait, je cite, « à peine respectable après un voyage en Égypte de se présenter sans une momie dans une main et un crocodile dans l'autre ».
C'est totalement normal. Écoutez.
J'ai fait quelques recherches Google et je ne sais toujours pas ce que c'est qu'un moine trappiste, mais non, les gens, ce n'est pas un moine qui fait de la trappe, en tout cas.
Oh purée. Ouais, j'avoue, un moine trappiste, c'est la première fois que j'entends
ouais,
ça.
Ouais, et puis j'ai tapé sur Google, ça m'a mis ouais, un truc. Je sais même plus, ça m'a sorti un nom encore plus long. Bref, je vais même pas. On s'en fiche en vrai, mais voilà.
Oui.
Donc, du coup, voilà, Thomas, c'est pas le premier à le faire. Il y a plein de soirées de déroulage de momies dans la haute société à ce moment-là. C'est très populaire. Au point que maintenant, ils en organisent aussi en public dans des amphis ou des hôpitaux. Mais lui, en fait, c'était le premier à en avoir fait un spectacle. Bon, on va pas se mentir, je vais pas les critiquer là-dessus parce que moi aussi, j'y aurais été. Hein, j'aurais acheté un ticket direct. Tu aurais été, toi ?
En vrai, non. Ah non, franchement, trop, non. Je dirais pas glauque, parce que ça... Enfin, pas glauque dans le sens voir des momies, ouais. Tu vois, mais glauque dans le sens où, tu sais, tu te dis, c'est des
oui, bah oui, je vois, sais, fin... mais...
Ok, ils sont oui. Morts, tu vois, mais... Genre, exhiber ça...
Après... Ouais, j'aurais peut-être pas été au spectacle, j'aurais peut-être pas été à la version spectacle, mais j'aurais été à la version genre où, bah, juste, il te montrait à quoi ressemble une momie, quoi, tu vois.
Oui, encore ça, à la limite, si c'est un point de vue, tu sais, genre, scientifique et tout, mais là, t'as pas l'impression que le gars, il a respecté.
Ah non, lui non, par contre, lui, ça a l'air d'être un... Bon, je...
Lui, c'est ouais. Wouh, les cirques du soleil,
ouais,
quoi.
Ça.
C'est let's go, allez, on va dérouler ça, tu sais, genre, totalement normal, ouais. Thomas Pettigrew. Ouais. Alors déjà, t'as un nom de famille, mec.
Je te jure.
Pettigrew. C'est pas dans Harry Potter ?
Oui, si, si. Je crois que c'est ça, un peu. Hein.
Ah, si, c'est ça.
Ouais, il me semble.
Oui,
petit gros, ouais. En français, ils l'ont dit. Ouais.
Oui. Ouais, je crois, ouais. Bref.
Et voilà, donc Thomas Pettigrew, il a quand même poussé le truc jusqu'au bout. Il a arrêté sa carrière de chirurgie. Parce que voilà, c'est pas si utile que ça à l'époque, hein, pour se consacrer à un truc beaucoup plus important, l'égyptomanie. Et il a publié en 1834 un traité de l'histoire des momies égyptiennes. Vous pouvez aller le lire si ça vous intéresse, ça s'appelle comme ça, l'histoire des momies égyptiennes. Et il est supposé qu'il aurait essayé de démontrer par son égyptomania et par son déballage de momies intensif que les anciens habitants de l'Égypte étaient blancs et non pas noirs, qu'ils étaient d'origine caucasienne et non pas africaine. Voilà, ça, apparemment, c'était ça son but.
D'accord.
Ouais. Et son travail fait du bruit dans les cercles londoniens et remonte aux oreilles du duc de Hamilton.
Mmh.
Celui-ci était tellement admiratif du travail de Thomas qu'il l'a engagé pour momifier son corps après sa propre mort. Et vous vous doutez bien, Thomas a accepté.
Oh, pff, écoute, bon, chacun fait ce qu'il veut avec son testament. Hein, mais... ouais. Ouais, bah, écoute, bon,
pourquoi pas.
S'il était heureux, bah, pourquoi pas. Hein.
Et en 1852, quand le duc est décédé, il a été inhumé dans, je cite, le sarcophage d'une princesse sans nom qu'il avait acquis des années plus tôt en France, supposément dans l'intention de le donner au British Museum.
Attends. What?
Ah. Ouais,
c'est parti.
Oui, il avait acquis un sarcophage, voilà. Donc, comme on disait plus tôt, il a volé un sarcophage
voler,
une princesse
hein,
sans nom. Clairement, oui. Et puis, il avait l'intention de le refourguer au British Museum. Et puis, il s'est dit, écoute, pourquoi pas me faire momifier dedans, hein, à la place.
Oh, quel manque de respect, purée.
Voilà. Voilà. Et donc, il y est toujours enterré aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si c'est enterré qu'il faudrait dire, mais bref, vous avez compris. Il est toujours dedans aujourd'hui. Et il a même gagné sa place dans l'encyclopédie des momies, écrit par Matt Cardin en 2014. Et on lui dit bonjour.
Oh, il a réalisé son rêve, hein, quelque part.
C'est ça. Momie. Écoute, il serait peut-être temps d'aller le chercher, de l'ouvrir, de le déballer en live sur Twitch. Et puis, on peut se sniffer un petit peu.
Allez, puis on s'en met sur le visage. Non, mais mon Dieu, mais franchement, les gens... Enfin, on a vraiment l'impression, tu sais, quand on entend ce genre d'histoire, c'est là où, tu vois, perso, j'aurais reçu des commentaires sur TikTok ou des gens qui... Non, mais les gens, à l'époque, ils étaient complètement fumés de la tête, hein. Mais je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a des trucs encore plus what the fuck.
Ah clairement.
C'est sûr.
C'est pas arrêté.
C'est sûr.
C'est pas arrêté à l'époque victorienne.
Puis, oui, et puis après, quand on parle de ce genre de choses, faut toujours remettre dans le contexte que ce n'est pas la majorité des gens, c'est une minorité, c'est des gens qui...
Les élites.
Voilà, ils s'ennuyaient tellement, tu sais, dans la société, ils savaient tellement pas quoi faire que... Et puis, vu qu'ils étaient riches, et qui, du coup, vu que la richesse était égale à la puissance, ils faisaient ce qu'ils
permettaient tout, quoi.
Ils s'en foutaient complet, donc ils permettaient de tout faire. Encore aujourd'hui, on a quand même des lois et tout, tu vois, maintenant, aujourd'hui, qui encadrent certaines choses, où, même si, bien sûr, t'es extrêmement riche, tu peux graisser la patte aux gens. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez contrôlé. Tu peux plus te permettre de faire trop ce que tu veux non plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi, tu vois. Et puis, on partait du principe que, tu vois, comme tu disais, prouver que cette personne-là, enfin que les momies étaient blanches et d'origine caucasien, ceci cela. Bon, moi je connais pas toutes ces histoires de momies, la culture, tout ça. Enfin voilà, c'est encore, tu vois, vouloir s'approprier quelque chose.
Ouais, clairement.
Alors que mec, laisse-les tranquilles. Enfin, genre, les Égyptiens, ils ont pas demandé à ce que tu viennes les embêter, tu vois. Genre, ça vraiment, c'est typiquement européen. Hein. Ça c'est typiquement européen. De toujours vouloir faire en sorte de, je sais pas comment on peut dire ça comme ça, mais de s'approprier les choses.
Effectivement. Et c'est ouf. C'est tout un sujet, ça.
Ouais.
Mais Thomas ne s'arrête pas là, malheureusement.
Ah,
les momies n'étaient pas son seul hobby, si je puis dire. Lors d'une de ses soirées les plus mémorables, il a exposé devant ses convives la tête momifiée de Yagan, un rebelle indigène australien qui résistait à la domination coloniale.
Mon Dieu.
Voici un extrait d'un article d'Atlas Obscura qui parle de cet événement. Je cite « Après que Yagan a été tué par des chasseurs de primes, Pettigrew a obtenu l'usage exclusif de sa tête pendant 18 mois. Il l'a ornée de plumes de cacatoès et d'un bandeau, puis l'a exposée devant une peinture spécialement commandée représentant les deux cultures britanniques et autochtones, vivant en harmonie. Les invités étaient encouragés à acheter le pamphlet en tant que souvenir de la soirée. » Voilà, sympathique.
Mmh. Oh là là. Ouais. Wow.
Tu nous manques pas, Thomas.
Thomas Pettigrew. Mais écoutez, très cher, j'espère que vous n'êtes pas allé encore plus loin que ça.
On s'arrête là généralement, on s'arrête là aussi par rapport aux momies, parce qu'au bout d'un moment, les momies ont perdu en popularité parce que après que la populace en ait profité et abusé pendant des centaines d'années, déjà de un, il n'y en avait plus beaucoup, restait pas grand-chose. Et deux, ils ont regagné, je sais pas, un peu de bon sens et ils se sont dit qu'il était grand temps de commencer à préserver l'histoire plutôt que de la bouffer et de se l'étaler sur le corps. Donc voilà. Et c'est pourquoi l'intérêt est redescendu depuis et aussi pourquoi on ne trouve plus de poudre de momie en pharmacie. Et je précise également qu'il n'y avait aucune vertu médicinale à cette pratique. Hein. Je pense même que ce serait plutôt l'inverse. Quand on entend parler des soi-disant malédictions de ceux qui ont ouvert les tombeaux de momies et qui sont morts pas longtemps après, c'était pas un sort de la momie. Hein, c'était juste qu'ils ont inhalé des sales trucs Parce qu'on le rappelle, un tombeau, ça contient un cadavre, d'accord ?
Un être humain en décomposition.
Voilà. Depuis des milliers d'années, en fait. Donc, on n'est pas censé y toucher, à la base, et encore moins les utiliser en crème de jour. Donc, voilà. Et je me demande si c'est pour ça, maintenant, que dans les films, ils nous montrent que des momies en colère. Genre, comme le film avec Tom Cruise, là, la momie.
Oh, me parle pas de ce film. Pitié, ah. C'est une abomination, c'est une horreur.
Ah, j'ai pas dit
ça. Ils ont voulu faire une suite. Ils ont voulu faire une suite là des films. Bon, alors attention, petite remise au contexte aussi. Ne prenez pas pour acquis le film.
Ah
bah
non,
la
mais ça y est déjà.
Avec Brendan
Fraser. Déjà il y a Tom Cruise dedans.
Pas du tout.
Déjà il y a Tom Cruise. T'inquiète pas. Hein. Je pense que.
Alors les premiers avec Brendan Fraser, donc vraiment 99, tu vois le tout premier qui est certainement l'un de mes films préférés. Lui, c'est vraiment, vraiment le film La Momie, tu vois. Genre celui avec Tom Cruise, c'est juste une suite qu'ils ont voulu faire. Au final, ça n'a pas marché, tu vois. Mais en fait, c'est pas du tout historical accurate. Hein. D'ailleurs, il y a Rachel Maxey qui a fait une vidéo, parce que c'est l'un de ses films préférés aussi. Donc, Rachel Maxey, c'est une américaine youtubeuse et tout. Et en fait, elle a invité une spécialiste de l'Égypte, je sais pas comment on dit ça, je suis désolée. Et du coup, elles ont regardé le film ensemble et tout, tu vois. Et en fait, la spécialiste, elle a débunk, tu vois. Elle a expliqué tout ce qui n'allait pas dans le film et tout. Mais c'est hyper intéressant, en fait, je trouve vraiment. Et oui, je pense que c'est pour ça, parce que le premier film, La Momie. Il me semble que ça se passe dans les années 20.
Ok.
Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est dans les années 20. Donc c'est vraiment, tu vois, début 20e, où on commence à. Enfin, il y a eu un petit regain, tu vois, à partir de vraiment fin 19e, début 20e, il y a eu un tout petit regain, tu vois, de l'égyptomanie, entre guillemets. Mais voilà, c'est pas non plus.
Ouais, par exemple, il y avait Agatha Christie qui a fait un truc genre. En Égypte et tout, mort sur le Nil, nanana. Moi, je l'ai pas lu, mais.
Oui, il y a eu un regain, en fait.
Je sais pas si ça correspond, hein.
Mais si, moi, il me semble, Agatha Christie, je crois que c'est ça, ou si c'est un Évin, ou peut-être pas, d'ailleurs, je dis pas de bêtises, mais si, je crois que c'est si. Je crois que c'est pareil. Mais oui, il y a eu un petit regain, en fait, mais plus respectueux.
Ça a
été un petit peu plus respectueux. Et là, c'est plus un regain dans le sens historique du terme. Se renseigner, tu vois, essayer de comprendre leurs us et coutumes, la culture, tout ça. Et la vidéo est très intéressante, je vais te la retrouver, je vais mettre le lien. Elle est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et du coup, donc voilà, ça pour dire que le premier film, vraiment le film original, La Momie avec Brendan Fraser, incroyable. Je pense que les auditeurs, vous devez connaître certainement ce film. Ah, j'ai retrouvé la vidéo. Mais par contre, celui avec Tom Cruise, si je vous en supplie, ne le regardez pas.
Je crois que c'est le seul que j'ai vu, en fait. J'ai pas vu celui dont tu me parles.
Ah, mais non, tu n'as même pas vu. Tu n'as même pas vu le classique.
Je suis pas sûre. Non. J'ai pas vu beaucoup de classiques, moi. À part les Hitchcock et tout, j'ai pas vu beaucoup de classiques.
C'est 99-2000. C'est vraiment. Après, moi, j'ai grandi avec ce film aussi, tu vois. Donc, vraiment, il est vraiment bien. Mais après, il n'est pas du tout historico-accurate, tu vois. Pas du tout. Mais voilà, on suit, en fait, les traces d'une bibliothécaire, un petit peu, je dirais, neurodivergente, tu vois. Ouais. Tu comprendras pourquoi si tu regardes le film. Et en fait, elle est extrêmement passionnée, tu vois, de l'Égypte. Et du coup, alors je ne sais plus par quel moyen, en fait, elle va se retrouver avec un homme qui s'appelle Rick O'Connell, tu vois, qui est l'américain de base. Alors, je ne sais même plus si c'est américain ou... Non, je crois que c'est britannique. Je crois qu'ils sont britanniques. Oui, O'Connell, je crois que c'est... Bon, je suppose, bref. Et en gros, ils vont se retrouver, en fait, tous les deux avec le frère de la bibliothécaire. En fait, ça va être le trio un petit peu infernal. Et ils vont se retrouver à devoir combattre, en fait, des momies, tu vois, des momies en colère.
Il faudrait que je regarde.
Mais il y a ce côté aussi, et c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est que il y a ce côté aussi en même temps respect de la culture, parce qu'en fait, c'est pas juste des Européens qui se retrouvent en Égypte et qui vont tout péter et qui vont se barrer, tu vois. non, il va y avoir des personnages aussi égyptiens. Et il y a aussi cet aspect de positif-négatif, tu vois. Les momies ne sont pas que... Il n'y a pas que cet aspect négatif, ce ne sont pas que des monstres. Et les êtres humains peuvent aussi être des monstres, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a vraiment toute une psychologie. Enfin, ce n'est pas, voilà, pas non plus... comme tu dis, ce n'est pas du Hitchcock, tu vois. Ce n'est pas, c'est pas du thriller psychologique non plus, tu vois. Mais c'est un bon film pour les amoureux de l'Égypte. Vraiment... Vraiment, il est vraiment, vraiment.
Ok, bah voilà, je vous mets tout ça en description. Comme ça, vous pourrez aller retrouver les titres des films et de tout ce dont on a parlé là dans cet épisode. Donc, bah voilà, c'était ma petite anecdote sur la conso de momie. Ne consommez pas de momie, les gens. Et ça, c'est vraiment une anecdote sur les Victoriens parmi tant d'autres. Il y en a tellement, ils faisaient tellement de trucs dangereux. D'ailleurs, tu en as beaucoup parlé dans ton contenu.
Alors, oui et non. Ouais, en fait, ils faisaient tout ça, tu vois, tous ces trucs de l'arsenic, tu vois, par exemple, le poison, les momies, tout ça. En fait, c'est vraiment une minorité. Okay. Et c'est vraiment les plus riches, tu vois. Sauf que vu que ça a été tellement... C'est tellement what the fuck. Ouais. Tu vois, que du coup, c'est ce qui a pris le plus de place dans l'histoire. Mais en vrai, il n'y a pas...
Ok, bon, bah, j'étais en train de répandre encore des rumeurs pour les 100 prochaines
non,
années.
Non. Non. En vrai, tu as raison, parce que l'époque victorienne est une époque, justement, en fait, dans le sens où il y a eu tout ce qui est l'industrialisation, ouais. L'évolution aussi de la médecine, la découverte, tu vois, par exemple. Par exemple de Pasteur, tu vois, la découverte de toutes les théories par rapport à l'eau. On pensait que l'eau était quelque chose tu vois, de, je sais pas comment dire ça, que le choléra, par exemple, il y avait cette histoire de choléra, tu vois. Donc du coup on a appris à comment dire ça, à mince, j'ai plus le terme scientifique à assainir,
oui,
l'eau,
voilà,
tu vois,
ouais.
entre guillemets, voilà, à assainir l'eau, tout ça. Donc il y a effectivement tout l'aspect maladie, la tuberculose, tout ce qui est après les produits chimiques, parce que en fait c'est à cette période-là qu'on a commencé et ben du coup à utiliser des produits chimiques, à créer des produits chimiques, par exemple. Il y a la découverte des vaccins, la découverte des maladies aussi, la médecine psychiatrique. Aussi, qui est un énorme sujet, tu vois. Donc, effectivement, il y a tout cet aspect glauque, entre guillemets, où nos ancêtres, du coup, je ne sais pas comment dire ça, mais dans le sens, en fait, je vais un peu caricaturer le truc, mais c'est nos ancêtres, s'ils n'avaient pas vécu ce qu'ils ont vécu à cette époque-là,
on n'en serait pas là, quoi.
Tout ce qui était... On n'en serait pas là aujourd'hui en termes d'évolution, je parle scientifique, médicale, etc., tu vois. Mais ça veut pas dire que c'était une époque où il y avait que des trucs complètement what the fuck qui se passaient non plus. Mais oui, c'est sûr qu'il y a eu des trucs complètement chelous. Mais comme aujourd'hui, je suis sûre que dans 300 ans,
oui, bien sûr.
Tu vois, aujourd'hui, il y a des choses. Bon, là, je n'ai pas d'idée en tête, tu vois. Bon,
ensuite, le glutamate, les vaccins. Non, je rigole.
Elon Musk qui veut conquérir la Lune, tu vois. Je sais pas, je crois qu'il y a une histoire comme ça, tu vois. Mais peut-être que dans 300 ans, on se dira, mais what the fuck, pourquoi il a voulu faire ça, tu vois.
Ouais, je te jure.
Donc, oui, effectivement, l'époque victorienne est une période, en fait, d'avancée. Et il y a eu tellement d'avancées très rapidement, parce qu'un siècle, c'est rien. En termes d'avancées scientifiques, médicales et tout. Et là, en plus, quand on parle de l'époque victorienne, on parle de 1837 à 1901. Donc, c'est vraiment la moitié d'une centaine d'années. Donc, c'est voilà, à peu près un peu plus d'une moitié. Donc, du coup, il y a eu tellement d'avancées scientifiques et c'est tellement parti en cacahuète dans tous les sens que du coup, oui, effectivement, c'est une époque où les gens ont vécu des trucs un peu space.
Et puis aussi, c'est très romantisé aussi, cette époque. Tu vois, on va tout coller. Enfin, il y a tout un... C'est très bulle dans l'histoire, je sais pas, ça fait univers. Déjà, quand tu penses époque victorienne, tu as les visuels. Enfin, tu vois les intérieurs dans les films, tu sais, et tout. Il y a beaucoup de films qui sont basés sur cette époque, donc ça revient beaucoup. Mais je suis sûre que peut-être, je sais pas, moi, dans les années 20 ou dans les années 50, il se passait peut-être plein de dingueries, mais qu'on va pas forcément ressortir aussi souvent que l'époque victorienne qu'on aime bien, dont on aime bien parler, parce qu'elle est quand même... très chargé visuellement, historiquement, tu vois.
En fait, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est une période qui est extrêmement chargée, en fait, au niveau de la culture, au niveau où il y a eu tout ce qui est peintre, il y a eu aussi tout ce qui est la littérature classique, la littérature gothique. Et en fait, c'est le cinéma qui a vraiment fait extrêmement populariser l'époque victorienne, puisque au début de la création du cinéma, et notamment quand il y a eu l'époque de la Hammer, donc les films de monstres, Dracula, Frankenstein et tout, ben en fait, ils se sont tous plus ou moins inspirés des romans du 19e et aussi des Penny Dreadful. Donc, du coup, ben voilà, le portrait de Dorian Gray, tu vois, par exemple, c'est le 19e siècle, c'est Oscar Wilde, si je ne dis pas de bêtises. Wilde. Frankenstein, ben c'est Mary Shelley, Dracula, c'est Bram Stoker, et tout ça, c'est spécifiquement durant l'époque victorienne, tu vois. Et quand il y a eu la création du cinéma, et ben du coup, quand il y a eu tous ces personnages en fait emblématiques de la Hammer et du cinéma de genre, du cinéma d'horreur, et ben en fait, ça a permis à faire perdurer le côté spooky en fait de l'époque victorienne.
Ouais, c'est ça.
Donc, le cinéma a un énorme impact en fait sur l'histoire du 19e siècle, bien entendu. Donc voilà.
Ouais. C'est trop intéressant cette époque, et j'ai bien prévu de faire d'autres sujets, notamment sur la psychiatrie à cette époque, avec l'histoire de Nelly Bly. Je sais pas si tu la connais.
Alors de nom comme ça me dit rien.
C'était une femme journaliste qui s'est infiltrée dans un asile à l'époque pour dénoncer les conditions, en fait. Voilà.
Oui, je crois que j'en ai entendu parler, mais je ne m'étais jamais penchée sur le sujet, mais ça a l'air hyper intéressant.
Bah, je pense faire ça bientôt, et peut-être que ce sera en ta compagnie, je ne sais pas, on verra bien, voilà.
Bon, comme tu veux, ce sera avec grand plaisir.
Ok, ben du coup, j'ai rien d'autre à dire par rapport aux momies. Est-ce que tu as des trucs à rajouter, toi?
Non, pas vraiment, hein. Franchement, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je me suis pas extrêmement penchée. Après, comme je disais, tu sais, au tout début, quand on commençait à parler, chers auditeurs, si vraiment vous voulez vous orienter sur tout ce qui est rite funéraire, mais aussi tout ce qui est en rapport avec les momies, les curiosités aussi, bah, vous avez Juliette Caz qui fait tout ça et qui a écrit des livres, et elle parle notamment des momies. Alors, est-ce qu'elle parle notamment des momies expressément durant l'époque victorienne? Je crois qu'elle survole un petit peu le sujet. Mais elle est... je crois qu'elle a un diplôme en archéologie ou quelque chose comme ça.
Elle est legit.
Ouais, elle est legit, quoi. C'est vraiment, si vous voulez... vous voulez vous caler par rapport à ça, Juliette Caz, je pense qu'elle sera 10 fois mieux... elle saura mieux que moi, en tout cas, vous en parler. Mais en tout cas, toi, tu m'as appris beaucoup de choses, parce qu'il y a vraiment tout ça là. Thomas Pettigrew, tu vois, je ne le connaissais pas, je ne savais pas du tout qu'il avait fait ces atrocités.
Ouais.
donc non, vraiment hyper hyper intéressant. Quoi.
Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre, et là c'est juste the tip of the iceberg, n'est-ce pas?
Voilà. Ouais. Alors après, s'il y a juste un truc que je peux rajouter par rapport plus spécifiquement à l'époque victorienne, parce que c'est vraiment quelque chose auquel je me suis confrontée sur les réseaux sociaux, c'est ne croyez pas ce que vous voyez sur Internet. Alors, c'est moi aussi, hein, je m'inclus dedans. Alors, je ne parle pas de podcast ou quoi, mais je parle plus spécifiquement d'articles ou de vidéos TikTok ou YouTube. Faites attention et vérifiez toujours vos sources, parce que c'est extrêmement important. Et comment savoir, en fait, si un sujet est vrai ou pas? Moi, j'aime bien une youtubeuse qui s'appelle Karolina Zebrowska. C'est une youtubeuse polonaise, mais qui parle anglais. Je crois qu'elle est polonaise. Elle parle anglais, donc voilà, bon, si vous comprenez un petit peu l'anglais, c'est bien. En fait, elle explique que si une histoire est abracadabrantesque et complètement mais lunaire, vraiment, et qu'il n'y a quasiment pas de source, vous êtes sûr à 99,9% que c'est du fake.
Ouais.
Voilà. S'il y a des sources, par exemple, toi, tu vois, Thomas Pettigrew, il a sorti un bouquin, le bouquin, il a été publié, il y a le British Museum, tu vois, qui peut, voilà, il y a des choses qui ont été prouvées. Donc, c'est des sources, parce que le British Museum, voilà, je pense que c'est le musée le plus influent de l'Angleterre, voire même certainement peut-être l'un des plus influents d'Europe. Donc, voilà, on le sait qu'il y a des choses qui ont été controversées et tout. Mais, par exemple, je sais pas, je vais donner un exemple de le corset, tu vois. Ça, c'est quelque chose auquel je débunk très souvent aussi et auquel il faut faire attention, par exemple. Quand on dit, par exemple, le corset, il a tué des femmes, il a déplacé des organes. Non. Citez-moi une source viable, une vraie source, qui et pas juste des dessins que vous trouvez sur Wikipédia ou sur Google, qui prouve, tu vois. Et en fait, vraiment, c'est ça. C'est même en règle générale, pour les passionnés d'histoire et tout, et moi, je m'inclus dedans parce que moi aussi, j'ai dit des bêtises au début de mon compte TikTok, tu vois, ça peut arriver. Mais toujours vérifier les sources. Et vraiment, s'il y a quelque chose qui est complètement hallucinant, tu vois, mais un truc vraiment, c'est fake. Tu te dis, c'est pas possible, ça n'a jamais été possible.
Ça peut être fake, il faut se renseigner, quoi. Il faut creuser.
Ça peut être fake et surtout, ça a été romancé. Ouais. Tu vois, ça a été manipulé, en fait, pour que ce soit quelque chose de choquant. Donc,
après, il y a peut-être des choses que j'ai dit qui sont pas, peut-être qui sont aussi pas bonnes, mais c'est pour ça que je mets mes sources à chacun de mes épisodes. Et vous avez la liberté d'y aller. Je vous invite vivement à chaque fois d'aller voir mes sources pour voir sur quoi je me suis basée pour vous raconter ces choses, parce que j'invente pas. Hein, mais voilà, des fois, on peut interpréter certains détails. Des fois, je peux peut-être interpréter certains trucs. J'essaye de ne pas le faire en général parce que c'est pas à ma place. Je suis pas là pour vous raconter des fake news. Mais voilà, donc toujours vérifier les sources. Et puis si c'est des sujets qui vous intéressent vraiment, allez faire vos recherches parce que c'est intéressant aussi. Voilà.
C'est très intéressant de faire soi-même aussi ces recherches. Je trouve ça bien, ouais, quand tu découvres un sujet et puis tu dis, oh, je vais aller regarder un petit peu. Et puis là, waouh, trop bien.
Ouais. De ouf. Ben, merci à toi, Billy, d'avoir participé à cet épisode, d'avoir accepté mon invitation.
Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était hyper intéressant. Vraiment, j'ai passé un très, très bon moment.
Ouais, c'était trop cool. et merci à tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ces deux histoires / anecdotes / débunkage vous auront plu. N'hésitez pas à aller suivre Billy sur tous ses réseaux. Où est-ce qu'on peut te trouver, Billy, en priorité ?
En priorité sur Instagram et sur TikTok, même si je vais de moins en moins, mais en priorité sur Instagram.
Ok, et ben je vous mettrai tout ça en description. Allez la suivre sur Instagram, elle est vraiment trop stylax. En plus, elle a un style de fou. Vous allez voir, c'est j'adore.
Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Mais merci. Et merci aux auditeurs de m'avoir écouté, de nous avoir écouté. Vraiment, c'est très gentil.
Yes, vous êtes trop stylax.
Oui.
Sur ce, t'es prête, Billy ?
Oui.
Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires bien creepy.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
T'es encore là ? Envie d'écouter plus d'épisodes de C'est Creepy ? Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend.
Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balles à blanc, en fait.
Okay.
C'est pour faire peur.
Mais... je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio réveil ou je sais pas ce qu'on s'appelle.
Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache. Sauf qu'à l'époque, ils sont pas très très microbes et bactéries. Du coup, Charles décide d'écourter son séjour à Paris et rentre au Glandier le 3 janvier, au bout de sa vie. Ou plutôt, au bout du rouleau de PQ. Et c'est Marie. Vu qu'il y avait des doutes de meurtre, prouvez à tout le monde que ce n'est pas un meurtre, prouvez que c'est un suicide. Refaites les tests, montrez que bah voilà, avec la corde, nanana, lancez le truc par-dessus bord. Non, ils ont rien fait. C'est aberrant.
Quelle indignité.
Sache que tu peux aussi, dès aujourd'hui, rejoindre mon Patreon gratuitement pour tester et écouter un épisode exclusif. Tu auras tout de suite accès à l'épisode sur la macabre histoire d'Ed Gein, mais aussi à la version vidéo de mes épisodes publics que je commence à filmer pour que vous ayez accès aux coulisses. Pour rejoindre, rien de plus simple, tu trouveras le lien Patreon dans la description de cet épisode. À tout de suite pour plus d'histoires bien...
creepy.